France Inter, 8h22.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le président du Sénat. Vos questions 01 45 24 7000, passez autrement par les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Gérard Larcher, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Nous avons donc appris dans la nuit la disparition de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à l'âge de 94 ans et des suites du Covid. Vous avez observé cette nuit au Sénat une minute de silence. Avec sa disparition, une page d'histoire de la vie politique française devient une page d'histoire tout court. Alors dites-nous, pour commencer, Gérard Larcher, quelles images, quels souvenirs vous traversent ce matin, quels sentiments aussi?
D'abord, Valéry Giscard d'Estaing, il a changé quelque part la gouvernance de ce pays. On vient d'évoquer son rôle dans la construction européenne, et je dois dire que je partage les propos qui viennent d'être tenu. Parce que Giscard, c'est aussi Simone Veil, première présidente du Parlement européen. Une avancée démocratique majeure, lui qui disait qu'il avait deux références, Jean Monnet et Charles de Gaulle. Lui qui avait été aussi engagé à 18 ans dans la première armée française. Mais Valéry Giscard d'Estaing, c'est aussi une modernisation de nos rapports en société. 18 ans le droit de vote, l'interruption volontaire de grossesse, et on en parle moins, mais un renforcement des droits des parlementaires. La saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs, c'est quelque part le renforcement des droits des parlementaires, et notamment des parlementaires minoritaires. Mais aussi, un sujet qu'on évoque moins, mais dont on va parler peut-être dans les semaines qui viennent, la Commission nationale informatique et liberté, donc préoccupation de défense des libertés, c'est aussi ça, Valéry Giscard d'Estaing. Moi, je le voyais à peu près chaque année. C'était une intelligence fulgurante, tout le monde le sait, et je me souviens encore de notre dernière rencontre. Nous avions évoqué pourquoi une réforme constitutionnelle ne pouvait pas être faite dans la pulsion.
Emmanuel Macron, Gérard Larcher, a repris à Valéry Giscard d'Estaing le titre de plus jeune président de la République jamais élu. Giscard rentre à l'Élysée à 48 ans. Emmanuel Macron y rentre à 39 ans. L'un voulait présider soutenu par deux Français sur trois, c'était la grande phrase de Giscard. L'autre pour les Français et de gauche et en même temps de droite. Diriez-vous que le macronisme est le giscardisme de 2020?
Pas du tout. Je pense que Valéry Giscard d'Estaing avait le rêve de gouverner la France au centre. Il l'avait dit alors qu'il était ministre et du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Et il n'a pas totalement réussi ces deux Français sur trois. On l'a vu en 1981. Je pense que le macronisme, c'est autre chose. C'est la définition du « en même temps », alors qu'avec Valéry Giscard d'Estaing, nous avions une vision européenne, une vision d'une France au centre, qui parfois a pu faire discordance avec la famille gaulliste. Mais je n'oublie pas que Valéry Giscard d'Estaing fait avec les Républicains et Indépendants, dans les différentes configurations, ils ont participé à la construction de la Ve République.
Dites-nous, dernière question, et puis les auditeurs de France Inter en ont déjà de nombreuses à vous poser sur VGE. Quel sera son héritage, Gérard Larcher? Que restera-t-il de lui, le président moderne et réformateur? Ou alors la fin de règne pénible et crépusculaire?
Je pense que c'est le président réformateur, et notamment aussi le président qui se préoccupe de sujets qui aujourd'hui sont dans nos rendez-vous quotidiens. Par exemple, la condition féminine, sujet dont on parlait assez peu auparavant. Il fait donc, dans le domaine des libertés, beaucoup d'avancées, beaucoup plus qu'on ne l'a dit et imaginé.
Gérard Larcher, venons-en à l'actualité à présent avec les présidents de groupes parlementaires du Sénat. Vous étiez invité hier à déjeuner à l'Élysée par Emmanuel Macron. Quel était l'enjeu de ce déjeuner d'abord? C'était de resserrer des liens peut-être distendus avec le Sénat? Il y avait des sujets qui fâchent que vous avez abordés? Un besoin de câlinothérapie, c'était quoi?
Depuis, nous étions vus, le président de la République et moi-même, en tête à tête le 6 novembre. Et je lui avais dit, Monsieur le Président, faut qu'on se parle. Et les présidents de groupe du Sénat souhaitaient parler au président de la République. Et je partageais leurs souhaits.
Donc c'est à votre demande?
C'est à notre demande, et j'allais dire à notre demande collective que le président nous a reçus. Alors bien sûr, se parler, c'est parler de choses concrètes. Et bien sûr, on ne pouvait pas ne pas parler de l'article 24. Mais de l'article 24 de la Constitution. Et oui, l'article 24 de la Constitution, c'est quoi? Le Parlement vote la loi. Il fallait mettre fin à une forme de confusion. Et je dois dire que sur ce point, nos échanges ont été clairs, francs, directs. Mais le président a reconnu qu'il fallait laisser faire le travail du Parlement sur la loi sécurité globale, voilà, comme sur tous les textes.
Et sur l'autre article 24, donc celui de la loi sécurité globale, dont l'exécutif reconnaît aujourd'hui qu'il était mal formulé, pas assez clair, trop flou, qui va le réécrire finalement? C'est le Sénat ou la commission indépendante qui a été nommée pour le faire?
D'abord,
qui va tenir le stylo?
Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Il y a 65 articles avec des propositions très importantes pour ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Depuis la police municipale jusqu'à la justice. Alors il y a cet article 24 et il appartient à la commission des lois du Sénat d'analyser l'ensemble de ces 65 articles, dont l'article 24, mais aussi d'autres articles qui peuvent poser interrogation. Je pense notamment à l'utilisation de drones, l'utilisation de caméras. Et la commission des lois proposera au vote du Sénat un ensemble d'amendements. Je ne doute pas sur l'article 24, puisque le président François-Noël Buffet s'est déjà exprimé sur ce sujet, que sans doute on ne touchera pas la loi sur la presse de 1881, mais qu'il faut aussi renforcer la sécurité des policiers, des gendarmes, des forces de sécurité. En 15 ans, le nombre d'agressions contre les policiers, c'est plus 80%. Il faut que dans un état de droit, ceux qui assument le respect de l'état de droit soient protégés, mais que s'ils se comportent mal, ce qui est le cas d'une infime minorité, ils puissent être aussi sanctionnés, mais ça c'est un autre sujet.
Pardon de vous refaire préciser la question institutionnelle, puisque Jean Castex, encore hier, précise qu'il y aura cette commission indépendante qui sera chargée de réécrire cet article 24, cette commission dont vous ne voulez pas, vous lui avez demandé de retirer ça en disant c'est le Parlement qui... Non mais qu'on comprenne...
C'est très simple, il faut lire la Constitution, et oui. Jean Castex doit bien la connaître, l'article 24... c'est le droit d'amendement du Parlement, c'est donc au Sénat.
Oui, mais il vous dit le.
Au Sénat et à lui seul de réécrire, d'amender les articles.
Je ne suis pas Jean Castex.
De la loi sécurité globale. Ensuite, le texte repartira à l'Assemblée nationale. Nos collègues de l'Assemblée nationale pourront l'amender. Et ça s'appelle la navette. Oui. Ça s'appelle le bicamérisme.
Sauf que ça prend du temps. Et ce que répond Jean Castex, c'est que ça prend trop de temps. Il ne veut pas laisser vivre l'ambiguïté, dit-il, sur l'article 24. Il faut aller plus vite, donc commission indépendante.
Écoutez, le respect du Parlement fait partie des principes fondamentaux. Je ne céderai jamais sur le respect des droits du Parlement.
Donc vous lui dites quoi sur sa commission? Retirez-la.
Écoutez, j'ai entendu le président de la République hier, chef de l'État, garant de la Constitution. Il a compris, il a partagé qu'il fallait tout simplement laisser la navette parlementaire se faire, et que était le temps du Sénat aujourd'hui, le Sénat qui traditionnellement est très attentif avec les libertés. Liberté, sécurité, c'est cet équilibre-là, très tranquillement, sans polémique. Mais pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre voie que cela.
La lenteur est une qualité à vos yeux.
Non, la sagesse est une qualité.
Très bien. L'article 25 du projet de loi sur le séparatisme, article 25 hein, d'une autre loi, celle sur le séparatisme, vise également à protéger l'ensemble des agents publics et non plus seulement les policiers, contre évidemment la diffusion d'images, d'informations relatives à leur vie privée. Un article qui vient après l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce qu'à vos yeux, ce texte-là, Gérard Larcher, est mieux rédigé? Est-ce que vous le soutiendrez?
D'abord, un texte qui va être au Conseil des ministres la semaine prochaine, il sera intéressant d'avoir l'avis du Conseil d'État, puisque l'ensemble du texte est soumis à l'avis du Conseil d'État, ce qui n'a pas été le cas de la proposition de loi sur la sécurité globale. Je rappelle qu'elle aurait pu être soumise au Conseil d'État, elle ne l'a point été. C'est d'abord une loi qui, en quelque sorte, éclaire la loi de 1905 sur la laïcité. Et n'oublions pas le discours des Mureaux, auquel j'ai adhéré personnellement, globalement, et qui vise tout simplement à réaffirmer un certain nombre de points sur la laïcité, service public, la question de l'école, la laïcité dans le cadre de la vie associative, et j'allais dire au-delà de ça, la dissolution d'associations qui, pas simplement sur la question de l'islam radical, mais sur les pressions collectives. Et là, il y a eu beaucoup de rapports du Sénat. Et puis, il y a cet article que vous évoquez.
25.
Mais le deuxième titre, je le rappelle, c'est les rapports avec les cultes. Avec tous les cultes. Et naturellement, la question de l'organisation de l'islam en France n'est pas traitée par la loi. C'est une affaire qui appartient à l'islam lui-même de s'organiser. Mais il y a un certain nombre de règles qu'on connaît bien, qui s'appelle la loi de 1905, la loi de 1907. Tout ça, nous allons l'aborder. Alors, protection d'ailleurs sur un sujet majeur, contre la haine qui est déversée, les menaces, ouais. Et nous n'avons pas jusqu'à ce jour trouvé vraiment la vraie réponse. Souvenez-vous, la loi Avia est sanctionnée
par le Conseil constitutionnel.
Par le Conseil constitutionnel, je dis à juste titre, car on ne peut pas laisser à des plateformes le soin de réguler, mais c'est une question, et je pense que l'article 25, nous verrons son sort, méritera une étude attentive comme l'ensemble de la loi.
Très bien. Donc si je retiens ce que vous dites, puisque ça va être le grand sujet de la semaine prochaine, on prévient déjà nos auditeurs cet article 25 avec la création de ce délit.
Mais il n'y a pas que ça dans le texte. Il y a des
choses. Oui, j'entends bien. C'est ce que j'allais vous dire.
Lutter contre la fracture dans ce pays, lutter contre les communautarismes, lutter contre l'islamisme radical. Et j'insiste avec le mot radical, parce qu'il ne s'agit pas de lutter contre l'islam, qui est une religion qui a sa place dans la République. Ça va être un enjeu qui nécessite un examen en profondeur, un examen aussi qui nécessitera la sérénité, parce qu'on est sur des sujets qui touchent à l'intime, et le principe d'Aristide Briand, c'est quoi ? La loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Eh bien, autour de ça, je suis certain que nous aurons de vrais débats.
Gérard Larcher, très en forme ce matin. Très. Venons-en à la campagne de vaccination contre le Covid, Nicolas.
Oui, on a une question d'un auditeur de Colmar sur le sujet. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour et merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
Oui, alors, vu la défiance aujourd'hui des Français vis-à-vis du vaccin contre la Covid, pourquoi les politiques et entre autres le Sénat ne montrera-t-ils pas l'exemple en se vaccinant en premier ?
Merci Christophe pour cette question. Les sénateurs, comme j'ose pas dire cobayes, mais disons, premier récipiendaire du vaccin, Gérard Larcher, vous signez pour ça ou pas ?
D'abord, nous allons avoir un débat au Sénat, à la fois sur la sortie progressive du confinement, sur la question de l'isolement. Nous allons avoir un débat sur le vaccin. J'ai vu ce qu'a dit la Haute Autorité de Santé, qui a défini des priorités d'ailleurs, des priorités qui vont être éclairées par un certain nombre d'avis qui vont être donnés par les autorités européennes et françaises sur le vaccin. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui travaillent ensemble, rendra un rapport à la mi-janvier. Je dois dire que sur la question de la vaccination, moi je n'ai pas de prévention. Sur
vous
la
étiez même favorable à la vaccination obligatoire.
Oui, l'ancien, si nécessaire.
L'ancien vétérinaire que vous êtes n'a pas peur du vaccin.
Non, pas du tout.
Vous êtes prêt à
Et je rappelle ce qu'a dit la responsable de la commission des techniques de la vaccination. Il ne fera pas se priver de s'interroger sur l'obligation vaccinale si on n'avait pas un taux de protection suffisante dans le pays. Mais tout ça, faisons confiance à ceux qui ont la responsabilité au plan médical. La responsabilité du gouvernement, ça a été notre échange lors de ce déjeuner avec le président.
Il vous a dit quoi ?
C'est l'organisation de la vaccination en fonction des recommandations de la Haute Autorité de Santé et la logistique, le rôle des collectivités territoriales sur le terrain, cette organisation-là, mais aussi la pédagogie. Nous sortons, j'espère, de crises sanitaires qui ont vraiment érodé la confiance. Et on a raté masqué. On a modérément réussi tester. Il faut qu'on réussisse ensemble la vaccination et qu'elle atteigne l'objectif qu'elle s'est fixé. Je rappelle que le vaccin, c'est pas que pour moi, Gérard Larcher, ou pour que nous, les sénateurs, pour répondre à l'auditeur. C'est aussi une protection collective. Et c'est aussi une citoyenneté partagée.
Président Larcher, la Grande-Bretagne a été le premier pays à autoriser le vaccin. On l'a appris hier matin, la campagne de vaccination va démarrer chez eux dès la semaine prochaine. Est-ce que, selon vous, la France est en retard ou avons-nous raison de prendre notre temps pour un démarrage début d'année prochaine? On n'est pas à 3 semaines près.
La vaccination, c'est pas une course. C'est pas une course contre la montre. C'est une... un processus médical qui doit être sérieux, réfléchi, partagé. Nous aurons ce débat, mais je dois vous dire que moi j'accueille les recommandations de la Haute Autorité de Santé comme un apport positif. Nous en débattrons au Parlement, c'est ce que le Président de la République nous a dit hier au Président de groupe du Sénat. Nous avons beaucoup parlé sanitaire, nous avons aussi parlé économique, social et sociétal.
Et que vous a-t-il dit sur ce sujet?
Eh bien, que, et ça nous renvoie, que la priorité aujourd'hui, c'est de sortir de la crise économique, sociale et sociétale. Nous avons beaucoup évoqué la question des jeunes et de la pauvreté. Ce sont des sujets qui ont occupé beaucoup de temps dans nos échanges.
Sur la réforme des retraites, il vous a confirmé qu'il n'y aura pas de réforme des retraites d'ici la fin du quinquennat?
Non, il nous a dit que c'était pas la priorité, que la priorité c'était la gestion sanitaire, économique et sociale. Nous savons qu'il y aura un rendez-vous sur la réforme des retraites parce que les régimes sont totalement déséquilibrés. C'est ce que d'ailleurs le Sénat a rappelé à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement sur la sécurité sociale. La majorité du Sénat a rappelé que, entre, j'allais dire, durée de cotisation et âge, il y avait des réalités qu'il fallait regarder en face. Mais ça n'est pas, j'allais dire, l'objet aujourd'hui. Ça n'est pas la priorité. Mais ça, le président de la République l'a dit clairement, répondant à des questions des sénateurs de, j'allais dire, quasiment chacun des groupes.
Oui. Et il vous a donné un calendrier pour la réforme des retraites?
Non, il n'y a pas de calendrier. Sentons-nous d'abord et retrouvons la confiance et nous avons de sacrés défis économiques et sociaux à relever.
Il y a plusieurs questions sur le thème que vous souhaitez aborder. Marie, bonjour, vous nous appelez de Rouen.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour chers confrères, je suis vétérinaire.
Bonjour ma chère consoeur.
Bonjour chers confrères, je souhaite vous interpeller sur la pertinence de la création d'une école vétérinaire privée dans un contexte épidémiologique majeur avec l'émergence de maladies d'origine animale. Pensez-vous qu'il soit pertinent de remettre en question l'indépendance de notre profession avec l'intrusion des lobbies agricoles dans ces écoles vétérinaires privées? Et ne pensez-vous pas qu'il soit judicieux que l'État, dans un contexte de reprise économique, investisse massivement justement dans la formation de nos futurs confrères et consoeurs?
Et vous demandez, Marie, au président Larcher de vous soutenir?
Ah, évidemment, évidemment. La loi qui a été passée en commission mixte paritaire qu'on ait pu donner notre avis, nous, vétérinaires, est engluée dans les conflits d'intérêts et nous aimerions vraiment avoir l'avis de notre confrère sur ce sujet.
Merci Marie. Fabien pose grosso modo la même question, Gérard Larcher. Quid du conflit d'intérêts violent? Le maillage vétérinaire mérite mieux, ça c'est sûr. L'application d'Inter. Que répondez-vous à nos auditeurs alors?
Nous avons un problème de démographie vétérinaire, et notamment dans le secteur rural, et qu'il faut le relever. Et ça, c'est le premier des objectifs. Et il y a d'ailleurs une très intéressante étude de l'Ordre national des vétérinaires et des syndicats des vétérinaires sur cette réalité-là. Soit l'État se donne les moyens de relever ce défi au travers de nos écoles vétérinaires. Je n'oublie pas les responsabilités que j'ai eues comme étudiant à l'école de Lyon et ensuite à l'école nationale d'Alfort en représentant la région Île-de-France. Mais ça, c'est le défi. L'alternative qui est proposée par une école issue d'une école célèbre, à Beauvais, agricole, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, c'est une alternative. Il n'est pas anormal, il me semble utile pour les vétérinaires, qu'il y ait un débat, parce qu'il faut qu'on sorte du non-dit sur le déficit démographique en nombre de vétérinaires dans le secteur rural, indispensable à l'élevage, indispensable au bien-être animal.
Pour répondre aux auditeurs, Marie et Fabien, ça ne vous choque pas qu'il y ait des écoles privées, un maillage vétérinaire
privé ? Aucun débat ne me choque. Si c'est l'occasion de rappeler à l'État qu'il y a une priorité qui s'appelle la santé vétérinaire, et que c'est pas simplement au bénéfice des animaux, c'est au bénéfice de notre système agroalimentaire, de notre alimentation.
Gérard Larcher, une question politique. Vous l'entendez, la fronde qui monte dans votre parti contre Christian Jacob ?
Écoutez, Christian Jacob, il a le mérite d'avoir réunifié notre famille politique, d'avoir repris des contacts. Et simplement, nous devons... aujourd'hui, trouver une solution parce que...
Alors, vous l'avez pas la solution.
Mais attendez.
Attendez, on va expliquer aux auditeurs pourquoi la fronde monte. Elle monte parce que Christian Jacob veut attendre les régionales en juin prochain pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle. Bruno Retailleau lui dit c'est pas possible, ça va laisser, c'est trop tard, ça va laisser un avantage décisif à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Juin, ça fait tard, il nous faut un candidat avant septembre, un parti doit en avoir un, sinon c'est un club de réflexion, dit Nadine Morano. Vous êtes d'accord avec eux, il faut plutôt que les régionales...
Moi, j'ai un seul objectif, c'est que les Françaises et les Français aient une alternative à Emmanuel Macron et que ces alternatives ne se résument pas à Marine Le Pen d'un côté, Jean-Luc Mélenchon. Et j'œuvre pour cela. J'œuvre pour cela auprès des candidats potentiels de ma famille politique, mais aussi des familles politiques du centre. Parce que l'élection présidentielle, c'est pas... j'allais dire, à machin partisan, j'y travaille et j'irai au bout de la volonté de trouver une solution.
Oui, mais vous me
de la mettre pas. Sur la table au printemps, pour le moment venu, faire le choix d'une candidate ou d'un candidat qui puisse tout simplement proposer aux Français une alternative. C'est de la démocratie.
Est-ce que c'est trop tard après les régionales ?
Écoutez, travaillons maintenant et faisons le choix... Quand nous avons un système de départage, j'œuvre tranquillement, mais avec détermination, je peux vous assurer, parce que pour moi c'est une responsabilité majeure, que d'offrir une alternative démocratique.
Alors que le procès dans l'affaire Bismuth se poursuit avec Nicolas Sarkozy, deux syndicats de magistrats ont dénoncé les attaques de Nicolas Sarkozy contre les juges d'instruction du PNF qui enquêtent sur les soupçons d'un financement libyen de sa campagne. Et ils écrivent dans une lettre, bien plus grave encore, est la reprise de cet argumentaire insultant par deux personnalités politiques. Le président du Sénat, Gérard Larcher, deuxième personnage de l'État, et le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Ils dénoncent une atteinte à la justice de la part du deuxième personnage de l'État que vous êtes, Gérard Larcher. Vous leur répondez quoi ?
Je leur réponds que moi, je crois à l'autorité de justice. Mais que l'autorité de justice aussi doit accepter un certain nombre d'interrogations. Je ne suis pas sans me poser des questions. Et je l'ai dit d'ailleurs très directement, et je leur redirai à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général... Conseil supérieur de la magistrature, plus de 1000 plaintes, seulement 2 plaintes instruites allant jusqu'au bout. Donc je pense que moi j'ai confiance en l'autorité de justice, mais je ne serai pas muet devant un certain nombre d'interrogations qui sont d'ailleurs portées au-delà des politiques par nombre de nos concitoyens. Je pense que la justice manque de moyens, que nous l'avons laissé sur le bas-côté de la route, et que la justice, c'est aussi la question de la condition pénitentiaire. Et je vous rappelle que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait créé l'idée d'un secrétariat d'État à la condition pénitentiaire. Vous voyez que le sujet était déjà posé.
Là, vous nous faites la transition. Merci beaucoup.
Gérard Larcher, président du Sénat, d'avoir été au micro d'Inter.